aussi malades, en mauvais état physiquement et mentalement. Leurs proches réclament leur libération immédiate, les autorités françaises aussi. Récemment, le ministre des Affaires étrangères qualifie leur détention d'insupportable.
Enfin, en France, l'intersyndicale appelle à des mobilisations partout dans le pays aujourd'hui pour protester contre le recours à l'article 49.3 par le gouvernement qui permettra d'adopter, je le rappelle, la réforme des retraites sans débat supplémentaire et sans vote à l'Assemblée. 9h10, ici à Paris, tout de suite vous retrouvez Juan Gomez.
Pour rappel sur l'actualité avec les auditeurs de RFI, évidemment. Merci Jeanne Bartoli, 8h10, en temps universel. Reste avec nous dans...
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible. Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Malavita. Après avoir exercé divers métiers qui ont servi de cadre à ses premiers romans, Tony Benacquista, auteur de langue française, a écrit des intrigues policières telles La Maldonne des Sleepings, La Comédia des Ratés et puis des romans comme Saga, Quelqu'un d'autre. Il est également scénariste de bande dessinée, récemment Lucky Luke contre Pinkerton. Il publie Malavita en 2004 chez Gallimard. C'est l'histoire d'une famille américaine qui s'installe à Cholong-sur-Avre, petite commune de 7000 habitants en Normandie, dont la quiétude va être troublée par ces quatre personnages un peu bizarres. Fred Blake, le père, alias Giovanni Manzoni, ancien para de la Cosa Nostra, qui un jour balance et fait tomber les têtes de la mafia, les envoyant en prison pour des centaines d'années à Riker Islands. Il garde de cette époque mafieuse le souvenir de la fascination qu'il exerçait sur ses comparses et cette capacité à se positionner au-dessus des lois. Il vit dans l'anonymat grâce au plan de protection du FBI, représenté par Quintiliani et les lieutenants Richard Dizzico et Vincent Caputo. Mais quand on a été chef, il est impossible de ne pas parler de soi. Sa femme, Maggie, alias Livia, est bénévole dans une association caritative. Belle, la fille, fait honneur à son prénom. Varenne, le fils, sait se rendre indispensable pour tout et tous. Et Malavita, en italien mauvaise vie ou mafia, la chienne, ainsi baptisée par Fred. Nous allons vous lire quelques extraits de ce roman.
Una notte a Napoli. Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.
Fred entra dans la véranda déjà pleine de soleil et reconnut une fine odeur de lichen et de bois sec, un tas de bûches abandonnées par les anciens locataires. Les stores de la baie vitrée dessinaient des stries de lumière le long de la pièce. Fred y vit comme une rafale divine et s'amusa à exposer sa carcasse aux impacts. Protégée des éléments, mais ouverte sur le jardin, la pièce avoisinait les 40 mètres carrés d'un seul tenant. Il se dirigea vers le coin des barras et entreprit de dégager les vieilleries qui l'encombraient pour gagner en espace et en clarté. Il ouvrit la double porte vitrée et jeta à même le gravier du jardin les souvenirs oubliés d'une famille inconnue. Un poste de télé d'une autre ère, de la vaisselle et des cuivres, des annuaires sales, un cadre de vélo sans roue et une foule d'autres objets éliminés à juste titre. Fred éprouvait du plaisir à se défaire de cette brocante et ponctuait d'un rubbish ou junk chaque fois qu'il propulsait un de ces machins hors de sa vue. Pour finir, il saisit la poignée d'un petit étui en bakélite gris vert, prêt à le jeter dans les airs d'un geste de discobol. Soudain curieux de son contenu, il le posa à plat sur la table de ping-pong, fit jouer comme il put les deux fermoirs rouillés et souleva le couvercle. Métal noir, touche de nacre, clavier européen, chariot en retour automatique. La machine portait un nom, Brother 900, modèle 1964. Pour la toute première fois de sa vie, Frédéric Bleck tenait en main une machine à écrire. Il la soupesa comme il l'avait fait avec ses propres enfants à leur naissance. Il la fit tourner sur elle-même et, en observant les contours, les angles, les mécanismes apparents, à la fois superbes d'obsolescence et d'une rare complexité, pleine de pistons, de cames et de quincailleries savantes. Il passa le bout des doigts sur les reliefs des marteaux R, T, Y, U, s'amusa à les reconnaître au toucher, puis caressa à pleine paume l'armature en métal. La main sur une bobine, il tenta de faire défiler le ruban, puis approcha son nez afin d'y chercher une odeur d'encre qu'il ne trouva pas. Il frappa sur la touche N, puis sur une quantité d'autres, et de plus en plus vite jusqu'à enchevêtrer les marteaux. Il les démêla, excité, puis plaça ses 10 doigts sur 10 touches au hasard et, debout dans la lumière rosée de la véranda, le peignoir ouvert, les yeux fermés, il se sentit gagné par une émotion d'origine inconnue.
La Brother 900 était posée au milieu de la table de ping-pong, elle-même au centre de la véranda. Une géométrie solennelle mise en scène par Frédéric. Assis devant la machine, recueilli, le soleil en arrière-plan, il glissa dans le chariot une feuille de papier. La surface la plus blanche qu'il eût jamais vue. Il vérifia une à une les touches de nacre, dépoussiérées, nickelées au liquide vaisselle, superbe. Il avait même réussi à donner un regain d'humidité à un ruban sec comme les foins en l'exposant à la vapeur d'une casserole d'eau bouillante. Prêt à établir le contact, il se retrouvait seul face à cet engin. Lui qui n'avait peut-être jamais ouvert un seul livre, lui qui parlait une langue directe et sans fioritures et qui, de toute sa vie, n'avait rien écrit d'autre que des adresses sur des pochettes d'allumettes. Cette machine-là permet-elle de tout dire, se demandait-il sans quitter les touches des yeux. Fred n'avait jamais trouvé d'interlocuteur à sa mesure. Le mensonge est déjà dans l'oreille de celui qui écoute, pensait-il. Le désir de faire entendre sa vérité ne le quittait plus depuis l'issue du procès qu'il avait obligé à fuir en Europe. Ni les psychiatres, ni les avocats, ni ses amis perdus, ni aucun des types pleins de bonnes intentions n'avait essayé de comprendre son témoignage. On l'avait pris pour un monstre et personne n'avait pu s'empêcher de le juger. La machine, elle, ne ferait pas le tri. Elle prendrait le tout en vrac, le bon et le mauvais, l'inavouable et l'indicible, l'injuste et l'odieux. Car tous les événements étaient vrais. C'était bien ça le plus incroyable. Ces blocs de vérité dont personne ne voulait étaient tous authentiques. Si un mot en appelle un autre, il devait pouvoir les choisir tous, sans qu'on lui en suggère un seul, sans qu'on lui en interdise un seul. Au commencement était le verbe, lui avait-on dit, il y a bien longtemps. 40 ans plus tard, le hasard lui donnait l'occasion de le vérifier. Au commencement, il y avait sûrement un mot, un seul, tous les autres suivraient. Il leva son index droit, frappa un G, bleu clair, tout juste visible, puis un I. Il chercha des yeux la touche O, la touche V. Ensuite, histoire de s'enhardir, il parvint à obtenir un A de son annulaire gauche, puis frappa deux N à la suite, de deux doigts différents, et de termina de l'index par un I. Il relut le tout, heureux de n'avoir fait aucune faute. Giovanni.
Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, balzerà
Maggie, fais-moi du thé.
Dans sa véranda, Fred avait crié assez fort pour réveiller Malavita, qui poussa un grognement et se rendormit aussitôt. Maggie avait entendu elle aussi, sans ressentir aucune urgence, et resta plantée devant l'écran de télévision de leur chambre. Vexé qu'elle ne réponde pas, Fred quitta sa machine à écrire, au risque de laisser passer son inspiration.
« Tu m'as entendu ?»
Allongée sur le lit, contrariée par l'intrusion de son mari en plein dénouement d'un mélo, Maggie mit la cassette sur pause. « Fais pas ton rital avec moi, tu veux ?»«
Mais je travaille, sweetie. »
Au mot « travail », Maggie dut contenir un agacement qu'elle sentait monter depuis leur installation à Cholong un mois plus tôt. « On peut savoir ce que tu fabriques avec cette machine à écrire ?»«
J'écris. »«
Ne te fous pas de moi, Giovanni. » Elle ne l'appelait pas par son vrai prénom que dans les situations extrêmes, très tendres ou très tendues. Il allait devoir avouer ce qu'il fabriquait dans la véranda dès 10h du matin, penché sur une vieillerie en bakélite, et rendre compte au sien de cette urgence de travail qui lui donnait une énergie rare et le plongeait dans un délicieux désarroi. « Prends les voisins pour des cons, si le cœur t'en dit, mais épargne-nous, les gosses et moi. »«
Puisque je te dis que j'écris, nom de Dieu !»
Ben, tu sais à peine lire. Tu serais incapable d'écrire la moindre phrase que tu prononces. C'est le voisin du 5 qui m'a appris que tu nous pondais un truc sur le débarquement. J'ai dû acquiescer, là, comme une idiote. Le débarquement. Tu ne sais même pas qui était Eisenhower.
Je me fous de cette connerie de débarquement, Maggie. C'est un prétexte. J'écris autre chose.
Ben, on peut savoir quoi?
Mes mémoires.
Au début de l'après-midi, Maggie trouva le courage de s'atteler aux préparatifs du barbecue auquel Fred avait invité tout le quartier. Quel meilleur moyen de faire connaissance, Maggie, de s'intégrer, de se faire accepter. Elle dut le reconnaître. Aller au devant du voisinage, c'était s'épargner beaucoup de méfiance et créer un climat bienveillant. Malgré tout, elle soupçonnait son mari de vouloir vivre en public son nouveau fantasme, faire l'écrivain.
« Maggie !» hurla-t-il à nouveau au fond de la véranda. « Tu me fais ce thé, oui ou non ?»
Les coudes posés de part et d'autre de sa Brother 900, le menton sur ses doigts croisés, Fred s'interrogeait sur les mystères du point-virgule. Le point, il savait, la virgule, il savait, mais le point-virgule, comment une histoire pouvait être à la fois se terminer et se poursuivre? Quelque chose bloquait mentalement. La représentation d'une fin continue ou d'une continuité qui s'interrompt, ou l'inverse, ou quelque chose entre les deux? Allez savoir. Qu'est-ce qui dans la vie pouvait correspondre à ce schéma? Une sourde angoisse de la mort mêlée de la tentation métaphysique? Quoi d'autre? Une bonne tasse d'été lui aurait laissé le temps de la réflexion. Contre toute attente, Maggie décida de lui passer son caprice, dans le seul but de se jeter un coup d'œil à la dérobée sur les pages qu'il noircissait la journée durant. En général, les lubies de Fred ne duraient jamais longtemps et disparaissaient comme elles étaient venues. Rien de comparable avec cette comédie qui se jouait à lui-même. Fred se décida à frapper ce point-virgule pour essayer. Voir crever un ennemi est bien plus doux que de se faire un nouvel ami. Point-virgule. Qui a besoin de nouveaux amis ? À la réflexion, il trouva le point-virgule si peu clair, si hypocrite, qu'il essaya de recouvrir la virgule au tipex, sans toucher le point. Quand il entendit le cri épouvantable de Maggie, il se leva en renversant sa chaise, se rua dans la cuisine et vit sa femme stupéfaite, la bouilloire à la main devant le jet de rue du robinet. Une eau marronnasse, vaseuse, répandait dans l'évier une odeur d'outre-tombe.
Pour tenter d'expliquer les dysfonctionnements de sa tuyauterie, Fred avait fait preuve de patience, de curiosité et même d'une réelle bonne foi, épaté de découvrir en lui toutes ses qualités. La triste visite de Didier Fourcade, le plombier, avait suscité un challenge, percer le mystère de l'eau croupie. À l'époque, quand Giovanni Manzoni demandait des réponses, il les obtenait sans forcément avoir recours à une violence souvent inutile. D'autres méthodes s'imposaient. Quitte à en inventer de nouvelles, seul comptait le résultat. Comment accepter aujourd'hui qu'on lui cache des choses? Pas après son passé de mafieux, où il avait porté les plus douloureux secrets. pas après avoir connu les rouages occultes du FBI, pas après avoir été lui-même un secret d'État, pas après avoir inquiété à lui seul le petit monde qui s'agite autour de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, qui oserait lui imposer un mystère aussi opaque que cette fange qui sortait régulièrement de son robinet ? Après enquête auprès de ses voisins, qui faisaient coïncider leurs problèmes d'eau courante avec l'installation de l'usine Cartex, Fred avait d'abord cherché à faire la part des médisances. Maggie s'était adressée à la mairie, qui l'avait renvoyée à d'autres plombiers, qui, eux aussi, connaissaient le problème sans pouvoir le résoudre. Elle demanda à Cantigliani de se renseigner sur l'usine d'épuration. Rien non plus de ce côté-là. Elle était neuve et des plus performantes. Fred, exaspéré par toute cette inertie autour de son problème d'eau, avait besoin, faute de responsable, d'une explication rationnelle. Rien ne lui paraissait plus insupportable que cette fin de non-recevoir, chaque fois qu'il demandait des éclaircissements. Cette impression de se heurter à des institutions creuses, des bureaux vides, des services qui se renvoyaient les uns aux autres. Et cette manière implicite et administrative de l'envoyer se faire foutre le rendait fou.
Malgré les plaintes et les menaces de procès, les habitants du quartier des Favorites ne purent obtenir gain de cause. Fred, dont l'énergie ne s'était pas encore émoussée, n'avait nul besoin de bouc émissaire, mais d'une réalité concrète à laquelle se raccrocher. Ensuite, il aviserait. Il était même prêt à jouer le citoyen conscient de son civisme et à signaler une malfaçon, une erreur humaine, un dégât technique qui aurait échappé aux spécialistes. Après tout, il se foutait bien de Cartex, de son bien fondé, de la pollution qu'elle créait. Qu'est-ce qu'il en avait à foutre, Fred, de la pollution, de l'état de dégradation du monde, de ce que la course au profit avait fait ? La fin justifiait les moyens, et la fin était toujours la même. L'argent, avant tout, par-dessus tout et pour toujours. Ça avait été sa logique trop longtemps pour la remettre en question aujourd'hui. Il ne cherchait pas à fourrer son nom dans les affaires de personne. Ce temps-là était révolu. Il voulait simplement en avoir le cœur net. La société Cartex avait-elle quelque chose à voir avec cette eau dégueulasse qui coulait de ses robinets ? La réponse était oui, mais il devait en avoir la preuve. Un accès de découragement le fit s'asseoir à même le gravier, le dos contre les montants de la barrière métallique. Il patienta un bon moment, les bras croisés, pensif, dépourvu d'antagoniste, déstabilisé dans sa logique agressive. Sa vie de gangster lui avait appris une chose, derrière toute structure, si éminente soit-elle, on trouvait toujours des hommes. Des hommes dont on pouvait croiser la route, des hommes qui portaient des noms connus de tous, des hommes à visage découvert, des hommes invulnérables et pourtant faillibles, parce que c'est des hommes. Fred venait d'en avoir la preuve. Ce monde auquel il était condamné aujourd'hui, celui de la légalité et de la morale, était parsemé de pièges tendus par des ennemis sans visage, contre lesquels il était dérisoire de lutter. Et tant que cette gigantesque verrue de tôles ondulées, de produits toxiques plantés au milieu de la forêt resterait déserte, tant qu'il n'aurait eu la possibilité de remonter jusqu'au Big Boss en personne, Fred se heurtait à ce qu'il redoutait de plus, l'arbitraire. Assis par terre, il se sentait misérablement humain. Bien peu de choses en vérité. Il détestait qu'on le lui rappelle. Maintenant, il regardait la flamme du Zippo danser entre ses mains et retenait son geste, conscient de son aberration. Il se sentait déçu par cette société qui, contrairement à ce qu'elle prétendait, n'était pas régie par le sens commun, mais par la priorité absolue au profit, comme toutes les autres sociétés, parallèles et occultes, à commencer par celle qui avait été si longtemps la sienne. C'était comme s'il avait voulu donner à la légalité une chance de le surprendre, mais elle n'avait fait que confirmer, par défaut, ce qu'il prônait depuis toujours. Allumer cette mèche, c'était avouer son impuissance face à une énormité qui le dépassait. Comment lutter quand l'ennemi est partout et nulle part ? Que chacun a une bonne raison de ne rien écouter de nos malheurs ? Que ceux qui en profitent n'ont ni visage ni adresse ? Que des particuliers dépendent d'élus, qui dépendent de lobbies, dont les enjeux échappent aux pauvres R, qui confient son sort à des procédures administratives longues comme un jour sans pain ? À cette absurdité qui en arrangeait plus d'un, Fred allait en opposer une autre, la sienne, celle de la surenchère jusqu'à l'estocade. Tout aurait été sans doute plus simple s'il avait su renoncer quand l'ennemi était trop fort ou trop lointain, mais jamais il n'avait pu se faire une raison. Sa réponse,
il allait la donner par une belle nuit de printemps, sous une voûte infinie, dans une paisible atmosphère d'avant le monde. Le geste que l'homme de la rue s'interdisait de faire, Fred allait l'accomplir au nom de tous. Il alluma la mèche dans sa main gauche et approcha la flamme, la retenant un dernier instant. Il alluma la mèche, puis recula d'une centaine de mètres et attendit, les yeux grands ouverts. Le baraquement entier explosa en une gerbe de flammes qui monta haut dans le ciel. Le choc plombé de la déflagration le réveilla tout d'un coup, et le souffle de l'explosion le gifla assez fort pour balayer son vague à l'âme. Le geyser de lumière qui jaillit devant lui éclaira son horizon. Un ouragan de tôle retombait en pluie à un bon kilomètre à la ronde. Fred y vit les vestiges d'une autre époque s'éparpiller dans la nature avant de disparaître à jamais. À sa grande surprise, il se sentit soulagé d'un poids qu'il gardait depuis des années sur le cœur. L'apocalypse se termina par un brasier qui vint mourir sur le bitume des parkings alentour. Il poussa un soupir de soulagement.
Le bénévolat de Majgui au sein de diverses associations humanitaires avait fini par se savoir. On rendait hommage non seulement à son courage, mais à sa discrétion. On admirait son énergie et son dévouement. Elle participait activement aux préparatifs de la kermesse du 21 juin et de la fête du lycée, prenait part à la campagne d'information sur le tri des déchets domestiques, assistait aux réunions des amicales de quartier, consacrait 2 demi-journées par semaine à l'inventaire de la bibliothèque municipale. Et, quand son emploi du temps lui laissait 1 heure ou 2, elle jetait les bases de sa propre organisation caritative qu'elle soumettrait bientôt au conseil municipal. Plus on lui demandait, plus Maggie fournissait. Et lorsqu'elle faiblissait, que l'idée même de charité commençait à s'émousser, le cruel rappel de ses années passées venait l'aiguillonner. Et le remords la faisait avancer comme une pique dans les reins du condamné. Mais peu lui importait l'origine de son altruisme, seul comptait le résultat. Pas plus qu'elle ne cherchait à connaître les raisons profondes qui poussaient les autres bénévoles à se mobiliser pour des inconnus. Au tout début de son exercice, elle avait été curieuse des motivations de chacun et avait repéré divers archétypes. Elle avait rencontré des angoissés qui se consacraient aux autres afin de se débarrasser d'eux-mêmes. Il y avait aussi des malheureux qui donnaient, faute de n'avoir jamais reçu, et à l'inverse, des nantis mal assumés ou des oisifs fatigués de leur inertie. Il y avait les croyants qui, auréolés de leur sens du sacrifice, allaient au-devant des malheureux en se gardant de 3/4 dans le miroir de la béatification. Ceux-là avaient la gueule de l'emploi, le sourire bienveillant mais compassé, les bras ouverts comme des vallées de larmes, les yeux tristes d'avoir vu tant de misère. On trouvait aussi le progressiste à l'écoute d'autrui par souci de bonne conscience. Le simple fait de tendre la main vers les déshérités lui procurait un incomparable bien-être intellectuel. D'autres espéraient racheter d'un coup tout leur tort. D'autres encore se contredisaient eux-mêmes et cessaient de justifier leur cynisme par la décadence généralisée. Sans oublier ceux qui, sans rendre compte, passaient enfin à l'âge adulte. Aujourd'hui, Maggie se foutait bien de savoir lequel ressentait une véritable empathie pour le malheur de l'autre, lequel voyait monter en lui un réel sentiment d'indignation face à l'injustice, lequel sentait vibrer dans son cœur le diapason de la solidarité, lequel saignait aux blessures du monde. Le geste primait l'intention et la fraternité faisait feu de tout bois. À Cholon, l'apostolat devenait à la mode. De toutes nouvelles vocations s'étaient manifestées. On allait bientôt manquer de nécessiteux.
Voici quelques extraits des mémoires de Fred Blake.
Ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je me remette devant une page blanche et que je dise ce qui s'est réellement passé, même si personne ne lit jamais ces lignes. Avant de me prendre pour un fou, toi, lecteur, laisse-moi te raconter comment Kint et moi, on a essayé de remettre de l'ordre dans cette ville. D'abord, imagine-toi pactisé avec ton pire ennemi pour venir à bout de ton propre frère. Moi, Giovanni Manzoni, faire équipe avec l'homme que j'ai vu tant de fois crever dans mes rêves. Quand j'y repense, bien après les événements, ça me lève encore le cœur. Je vais essayer de me débarrasser de toutes les insultes qui me viennent quand je vois mentionner ce putain de flic. La tentation est grande, mais il faut éviter les répétitions. Je vais juste l'appeler par son nom, Tom Kint, Tommaso Cantigliani, dans sa version originale. Un jour, on me donnera l'ordre de changer tous les noms de cette histoire, mais d'ici là... Kint et moi, on avait décidé de se les faire, ces exécuteurs qui arrivaient de New York. New York, quels fous ils avaient été de quitter le paradis perdu des Vauriens. Un monde meilleur où tout est permis. Rien que des longues rues grises, des petits blocs en enfilade, des trous inexplicables, une vraie mâchoire de petits vieux. Fallait se lever de bonne heure pour trouver une âme à tout ça, même quand on y était né. Et pourtant tout y était plus vrai qu'ailleurs. Les amitiés à la vie et la mort, le goût de la pasta, les pièges cachés dans les mots et l'ardeur des femmes. Même le rouge du sang n'était plus rouge. Celui qui n'a pas connu New York vivra comme un fauve créé dans un zoo. Combien sont-ils, à votre avis ? M'a demandé Kint. Quelque chose entre les 7 mercenaires et les 12 salopards. Lui et moi, bras dessus, bras dessous, dans les rues de Cholon, fallait le voir pour le croire. Tom cachait son arsenal sous un long imperméable, mal serré à la ceinture à cause d'un fusil mitrailleur plaqué sur son abdomen. Si vous aviez vu sa tête de conspirateur, son souci de paraître discret quand il portait en bandoulière un fusil à longue portée de 6,5 kg dans sa housse, un sniper rifle. Le genre de truc dont la forme passe difficilement pour autre chose qu'un sniper rifle de 6,5 kg. Il devient urgent de mettre au point un plan, Fred. Un plan ? Je ne vois pas d'autre plan que tirer à vue et tirer bien. Je me demande si je ne fais pas une énorme connerie en restant à vos côtés. Passez par le quartier de la chapelle. Moi, je prends par le square. On se retrouve dans une demi-heure derrière la mairie. Permettez-moi de vous donner un conseil qu'on ne vous apprend pas à Cantito. Si vous en tuez un, retuez-le une seconde fois. Au début, ça fait bizarre de tirer sur un cadavre, mais on ne se doute pas à quel point ça peut se révéler utile. Il s'est éloigné et j'ai poussé un soupir de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il me laissait seul, hors de son contrôle, et armé comme un pistolero. Oubliez, Fred Blake, je devenais Gianni, le seul vrai moi, Giovanni Manzoni. Je l'aurais crié dans la rue si j'avais pu. L'attente avait été pénible, mais jamais résignée. Chaque minute de ces 6 années, je m'étais vu tout recommencer comme avant. Ça m'avait aidé à tenir, l'espoir qu'un jour, je retrouverais ma vraie vie Et ce jour était enfin arrivé.
Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, potrei sentire disturbata. Tu ava loro che andrò, un gioco a pese vuoi, ma è sorte pecca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano.
Parce que la vie des gens, les vrais gens de tous les jours, c'est un truc au-dessus de mes forces. Un mystère pour moi. La vie quotidienne des gens, quotidien, comment ça fonctionne dans leur tête et dans leur cœur? Comment peuvent-ils faire confiance à ce monde auquel ils sont obligés d'obéir? Comment font les honnêtes gens? Comment peuvent-ils vivre en se sentant si vulnérables? Qu'est-ce que ça fait d'être une victime? Victime de son voisin, du monde en marche ou de la raison d'État? Comment accepter une telle idée sans l'accommoder le restant de ses jours? Comment font les honnêtes gens quand on leur fait comprendre qu'ils se battent contre des moulins, qu'ils n'ont aucune chance de soulever des montagnes? Tu n'es protégé par rien, petit homme. Tu le crois, mais tu te trompes. Personne ne t'a jamais dit que tu n'étais qu'un petit fétu de paille à la merci de pourris dans mon genre. Et nous sommes si nombreux à vouloir te nuire, même des gens très bien, du bon côté de la barrière. Mais pour toi, mais pour qui tu ne représentes rien. Sinon, un manque à gagner. J'ai de la peine pour toi, sincèrement. Avant, je ne me doutais pas de ton calvaire. Je ne soupçonnais pas la quantité de misère qu'on te fait subir. Et pourtant, Dieu sait si tu y mets de la bonne volonté. Je t'ai vu faire. Tu gardes ta foi en l'humain. Tu essaies d'arranger les choses, de faire selon tes moyens. Et tes efforts vont être ruinés par tous ceux qui s'en foutent bien de ta foi en l'humanité. Et si par malheur tu te mets à pleurer, qui voudra t'écouter? Qui va se faire de la bile pour toi et ta petite famille? Tu vas t'entendre dire que tout le monde a ses soucis, de bien pire que le tien. Alors tu rentres la tête dans les épaules et tu avances. Honnête homme, parce que tu es un petit soldat, parce qu'il faut tenir jusqu'à la prochaine fois. Moi aussi j'ai essayé, pas pu, jamais eu ce courage-là.
Tom se planquait au dernier étage d'un immeuble. Bon. Je retire, se planquait. Il ne se planquait pas. Il vivait un vieux rêve. Regardait le monde à travers la lunette de son fusil. Si, tout gosse, on lui avait demandé ce qu'il voulait faire plus tard, il aurait répondu « sniper », sans réfléchir. Le tir embusqué, pour lui, c'était bien autre chose que le meurtre sale et crapuleux. Le crime, avec des odeurs et des bruits. Ça, c'était bon pour des animaux comme nous, il pensait. Lui, Tom Cantigliani, c'était bien au-dessus de ça, et c'est le cas de le dire. Sur sa terrasse, il lui suffisait de pivoter sur lui-même pour retrouver dans sa ligne de mire les différents quartiers de Cholong, tous si proches à travers la lunette. À portée de main, des écrans de surveillance ne lui auraient pas restitué des images aussi nettes. Le tir embusqué, c'était de la métaphysique, d'après lui. Silence, temps, distance. Concentration, gamberge. Le tir embusqué, c'était un regard. Le sniper, c'était la mort en personne qui frappe au moment le plus inattendu. De si loin, invisible, comme Dieu en personne. Sensation d'être partout à la fois. Il avait raison sur un point. Suffisait d'attendre pour être récompensé. Au-delà de ses espérances. Après un moment de fierté, une sorte d'angoisse l'a pris aux tripes. Une trouille qu'il a eu du mal à me décrire plus tard. Il n'en était pas à son premier Maccabée, Tom. C'était pas ça. Mais avoir fait tomber 3 hommes en même temps, dans 3 lieux différents, c'était surnaturel. C'est le mot qu'il avait employé. Il en voulait de la métaphysique, ce con. Il en a eu. N'empêche, en redescendant de son perchoir, il s'était juré de ne plus jamais toucher à un fusil à lunettes de toute sa vie.
Comme tous les mômes, Varenne avait grandi sans que je m'en rende compte. quand il était haut comme ça et qu'il savait à peine parler, dans son regard, il y avait tellement d'admiration pour moi, son vaurien le père. Une admiration qui n'avait rien à voir avec toutes celles que je connaissais déjà. C'était celle des tueurs, celle des courtisans et même celle des inconnus dans la rue. Les admirations mêlées d'autres choses, de trouille avant tout, mais aussi de convoitise et de jalousie, car tous avaient une bonne raison de m'admirer ou de me craindre. Tous, sauf cette petite créature qui s'accrochait à ma jambe et la serrait fort, comme si j'étais un géant. Dans cette admiration-là, je sentais de l'amour pur. Et puis un jour, sans que je comprenne pourquoi, cette confiance dans son regard avait disparu. Là où j'avais failli, mon fils allait peut-être réussir. Mon rôle de père, lui éviter les obstacles à venir, le faire profiter de mon expérience. Non, Varenne n'était pas un héritier, pas l'héritier de cette barbarie. Il avait utilisé le mot plusieurs fois. Il s'en était rendu compte une heure plus tôt à la gare de Solong. Je n'avais pas réussi à savoir si ça le rendait triste ou s'il se sentait délivré. En tout cas, il parlait sans colère. Ce qu'il venait de vivre l'avait fait vieillir d'un coup. Il avait pris 10 ans en quelques secondes. Je ne sais pas si c'est ça, devenir adulte. Il m'a posé la pire question que je pouvais imaginer. Il m'a demandé si un jour, le monde réussirait à se débarrasser de types comme moi. Si son monde à lui, celui dans lequel il allait peut-être devenir adulte et peut-être père, si ce monde-là avait une seule chance d'exister. Tous ceux qui ont été pères ont connu ça. Le jour où votre gosse remet en question tout ce que vous êtes, vous vous dites que c'est une crise d'adolescence et qu'avec l'âge, il comprendra. La différence, c'est que moi, je savais que Varenne ne reviendrait plus. Il avait posé une question, il s'agissait de répondre. C'était peut-être la dernière fois qu'il m'écouterait. J'ai été tentée de mentir, de le rassurer comme un père. Mais par respect pour l'homme qu'il devenait, j'ai préféré dire ce que j'avais sur le cœur. Non, mon fils, le monde ne se débarrassera jamais de types comme moi. Parce qu'à chaque nouvelle loi, il y aura toujours un malin pour vouloir la violer. Et tant qu'il y aura une norme, il y aura toujours ceux qui rêveront de la marge. Et tant qu'il y aura des vices, on trouvera des hommes pour pousser d'autres à les satisfaire. Mais dans des milliers d'années, qui sait ?
Malavita cherchait le sommeil, près de la chaudière ou sous-sol. Emmaillotée dans des mètres de gaz, elle aussi était pressée d'en finir avec cette putain de journée. Vu l'état dans lequel on l'a retrouvée, comment faire subir ça à un chien ? En la voyant comme ça, j'ai eu envie de m'occuper d'elle, de veiller sur sa convalescence, de la promener en forêt, de jouer avec dans le jardin, de lui apprendre des tours, de la laisser libre d'aller et venir, de lui redonner le goût de la vie. J'ai eu l'impression qu'elle était d'accord. Mais avant, elle avait une affaire à régler, le plus vite possible. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, pendant que tout le monde avait sombré dans le sommeil. La vendetta est un plat qui se mange froid, on dit. Mais pas pour elle. Ça lui est même tombé tout cuit dans le bec. Elle a ouvert l'œil en entendant un grincement par le soupirail. Elle a senti une présence. Elle a vu une silhouette dans le noir. Le visiteur ne se doutait pas que la chienne se tenait là, dans l'ombre, vivante. À l'odeur ou à l'instinct, elle l'a reconnue. Comment aurait-elle pu oublier ? On n'oublie pas, on ne pardonne jamais. C'est faux tout ce qu'on raconte là-dessus. Dans la pénombre, Matt a repéré les escaliers qui devaient le conduire jusqu'à moi. Il était prêt à mourir pour m'étriper et venger l'honneur de sa famille et de tous les affranchis du monde. La loi du silence allait finir par avoir le dernier mot. Il a dû se figer en attendant le grognement. Un putain de chien ? Eh oui, ce putain de chien qu'il avait roué de coups l'après-midi même. Un chien dont il ne connaissait pas même le nom. Malavita.
Des extraits du roman de Tonino Benacquista, Malavita, ont été lus par Annie et Gabriel.
pour l'accompagnement musical, les bruitages, à la technique, avec brio, Vincent et Claude Michel. Et merci à Radio G de nous ouvrir ses ondes.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.